Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Philippe Baudou. Vous êtes juge des saisies à Bruxelles. Bonjour Philippe, merci de me recevoir.
Bonjour Maître Bouria.
Alors, avant de nous plonger dans l'examen de ce que fait un juge des saisies au quotidien, je voulais connaître votre parcours. Comment est-ce que vous êtes retrouvé magistrat et en particulier juge des saisies ?
Comment faire d'une longue histoire une histoire courte ?
On n'est pas obligé de faire court.
Non. En deux mots commençant, je suis arrivé au barreau en 1989. J'ai rejoint un cabinet d'affaires important sur la place qui était au 341, un peu plus loin, un cabinet Lidekerk, pour ne pas la citer. Et j'y suis resté, à part une petite interruption de 3 ans, jusqu'en 2012. Donc j'étais un avocat commercialiste, je vais dire ça comme ça. Je faisais beaucoup de distributions commerciales.
Alors pour les gens qui ne sont pas familiers, c'est
quoi ? Les contrats de franchise, les contrats d'agence, les concessions automobiles, voitures.
Donc c'est toutes ces entreprises qui ont une marque, une enseigne,
oui.
Et qui demandent à d'autres personnes, à des indépendants, d'ouvrir des enseignes avec le même nom.
Comme okay. Par exemple pour VW en Belgique, c'est Dieterun qui est l'importateur et il conclut des contrats avec des indépendants qui ont le droit de porter la marque Dieterun, d'apparaître comme des membres du réseau Dieterun, VW, etc. Et donc, c'est régler ce que les parties vont devoir faire dans le cadre de la vie du contrat. Et on prévoit aussi la fin du contrat, les objectifs de commande, les bénéfices, tous les détails qui peuvent intéresser la... Le fait que ce soit un tiers qui va défendre votre marque
oui.
pour la faire prospérer. Donc je faisais beaucoup de choses comme ça. Je faisais du droit bancaire. Je faisais aussi du droit bancaire. J'ai commencé dans un cabinet de petite taille avec un maître de stage qui était le conseil du Crédit Général qui est devenu CBC. Et pendant 5 ans, j'ai fait beaucoup d'opérations. Et j'étais pour le banquier, donc dans le cadre des procédures d'introduction pour recouvrer des prêts ou des soldes débiteurs irréguliers,
donc,
des prêts non remboursés.
Donc en français dans le texte, vous représentiez les banques qui essayaient de récupérer leur argent vis-à-vis de clients qui avaient des difficultés et qui ne payaient pas leur crédit.
Voilà, en français dans le texte, c'est comme ça, exactement. Et pour prendre faire une petite parenthèse, vous savez ce que c'est que la définition d'un banquier ?
Non.
C'est quelqu'un qui vous prête un parapluie et qui vous demande de le remettre quand il pleut.
C'est une belle définition.
Et donc, j'ai vécu la relation crédité, bénéficiaire du crédit et du banquier, en fait, des deux côtés.
D'accord.
Dans les 5 premières années, c'était surtout du côté banquier, donc je connaissais un petit peu leurs travers et leurs points positifs. Et à l'inverse, quand je suis allé dans ce cabinet d'affaires, on était plus. Enfin, il y avait des associés qui défendaient des banques. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas voulu dire. Mais moi, l'associé avec lequel je travaillais, on défendait plutôt des particuliers sur des gros investissements qui avaient lamentablement échoué et ce genre de choses.
D'accord.
Donc j'étais commercialiste, pour dire ça de manière générale. Et j'ai eu des coups de fatigue. Des coups de lassitude, parce que j'avais le sentiment que mes valeurs n'étaient plus en adéquation avec ce que je faisais. Le cabinet prenait une tournure que comprise toutes les cabines, tous les grands cabinets, et tous les cabinets moyens et même tous les petits, qui étaient orientés argent. Donc on est un bon avocat si on a un bon chiffre d'affaires, pas si on ne met pas en cause l'assureur responsabilité du cabinet. Je force un peu le trait, mais c'est l'idée.
Mais c'est intéressant de le souligner aussi, parce que parfois, certains clients ne comprennent pas qu'un cabinet d'avocats, c'est une entreprise comme une autre, et il faut que cette entreprise soit rentable.
Absolument.
Sinon, on met la clé sous la porte et on ne peut pas survivre.
Et offrir un service de qualité à une époque où le digital, l'accès à l'information digitale était quand même relativement limité. Ça supposait un investissement colossal dans des bibliothèques.
Oui.
Énorme. Parfois plus concurrentiel que celle de certaines facultés de droit du pays.
Oui.
Mais Voilà, tout ça a un coût, évidemment, mais tout ça a généré chez moi une forme de lassitude. Je ne me sentais plus bien.
Oui.
Et j'avais le sentiment que la magistrature m'offrait cet avantage de pouvoir mettre en adéquation mes valeurs, mon sens de l'humanisme et du respect de l'humanité, plutôt que d'être toujours dans le combat.
D'accord.
Parce que quand vous êtes avocat, je vous apprends rien. Le but du jeu, c'est de faire trébucher l'adversaire.
Oui.
Ça, c'est la façon pudique de le dire.
Oui.
Mais il y a des façons plus brutales de le penser et même de le faire.
Mm-hmm.
Quand vous êtes juge, c'est ce que j'explique aux jeunes avocats quand je les suis invités dans le cadre des cours CAPA.
Oui.
Donc le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Oui. Donc c'est les cours que les avocats stagiaires sont obligés de suivre pour pouvoir devenir avocat, avoir le titre d'avocat.
Exactement. Je suis parfois invité dans le cadre des cours de procédure judiciaire pour expliquer ce que le magistrat attend en termes de conclusion, donc l'acte de procédure écrit qu'on soumet à l'analyse du tribunal, en termes de plaidoirie, en termes de respect des uns et des autres, tous les petits trucs.
Qu'on n'apprend pas à la fac.
Non, mais qui sont importants parce que c'est un métier de communication, on va dire, c'est quasiment que ça, en tout cas dans la phase, on va dire, judiciaire. Dans le cas de la consultation, c'est un peu différent.
Oui.
Je réfléchis toujours qu'un avocat défend une thèse, un juge pas.
Non.
Il doit dire ce qui est. Si deux avocats sont mauvais, il ne peut pas dire le moins mauvais des deux, c'est celui-là, donc il va gagner, parce qu'il est le moins mauvais. Il faut, le cas échéant, aller chercher le droit et l'appliquer là où personne n'a été le chercher, dans le respect du principe des contradictions, des débats, etc., bien sûr. Mais c'est un autre métier. J'étais très content à l'idée de pouvoir perdre en grosse partie mon téléphone. Parce qu'il m'est arrivé de faire des choses pas possibles. Ma femme ne voulait pas que je prenne du travail en vacances. Et elle m'a surpris un jour avec mon BlackBerry. Un ici sur la tête parce qu'il y avait trop de soleil sur la côte, dans l'océan Indien où on était, en train de faire des conclusions. Donc c'était revoir un contrat pour mon meilleur client.
Mais enfin.
Sur un BlackBerry.
Je sais sur pas si un vous imaginez, BlackBerry quoi. Sur la plage où il fait 40 degrés.
Ouais.
C'est
et là, on se dit que
insensé.
On va dans le mur, quoi.
Ouais.
Enfin, on va pas, on y est.
Ouais.
Et donc, le fait de ne plus devoir gérer les coups de fil, les aspects comptables, qui deviennent de plus en plus compliqués, on parlait de l'arrivée de la TVA, tout ça m'a poussé, m'a convaincu qu'il fallait le temps de m'avoir ailleurs. J'allais avoir 50 ans, ou je venais de les avoir, et je m'étais dit que bon, je pouvais encore avoir 15-17 ans, c'était le bon moment. Parce que devenir magistrat à 65 ans pour arrêter à 67, ça ne présente aucun intérêt, ça fait travailler le CSJ pour rien. Et donc j'ai commencé ma carrière au tribunal de première instance de Bruxelles dans une chambre à trois juges. Il faut le souligner, il y avait encore des chambres à trois juges. Depuis lors, le législateur est passé par là.
J'allais vous le dire, il n'y en a presque plus.
Ouais. Chez nous, on fait encore de l'écolage comme ça, mais grâce à quelques vice-présidentes hyper dynamiques et compétentes. Et puis après un an, le président de l'époque, le président Luc Hénard, m'a proposé de prendre la place qui se libérait aux saisies.
Mais alors vous n'avez pas expliqué quel type d'examen vous avez passé pour devenir magistrat ?
J'ai passé la troisième voie, ce qu'on appelle la troisième voie. C'est-à-dire les avocats qui ont plus de, je crois que c'était 20 ans de barreau.
Il me semble, oui.
Oui, enfin moi j'en ai 23 et demi quand j'ai fait. Plus de 20 ans de barreau. Et c'est une épreuve orale. Enfin, c'était une épreuve orale. Il y avait tout d'abord un casus, qu'il fallait préparer pour aller le défendre oralement. Et j'avais un ami qui avait fait cet examen dans le cadre d'une autre voie, mais qui m'avait dit « Ne t'inquiète pas si tu ne comprends rien à ton casus, ne t'inquiète pas si tu perds les pieds, etc. » C'est l'effet normal. Attends 5-10 minutes, couche sur le papier tout ce qui te vient en tête. Et bon, j'ai fait ça, quoi. Parce que, a priori, quand j'ai écrit mon casus, je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible.
Je vais jamais y arriver.
Je vais pas y arriver. Ouais. C'était tellement stressant que je cherchais des principes dégagés par la jurisprudence dans mon code, alors que c'était dégagé par la jurisprudence, quoi. Puis j'ai dit, allez, on se calme.
Oui.
Et j'ai fait comme vous évoquiez tout à l'heure, la prise de notes.
Oui, on en a discuté.
La structuration de l'écrit en vue d'une préparation orale.
Oui, avant qu'on lance le podcast, l'enregistrement du podcast, on parlait du bénéfice de prendre des notes à la main, par écrit, plutôt que tout noter par l'ordinateur.
Alors, il y avait après une demi-heure, trois quarts d'heure, on était appelé à passer devant la commission qui vous bombarde de questions. Enfin, vous présentez d'abord votre casus, vous présentez votre solution. Vous évoquez vos interrogations parce que le casus ne fait pas 25 pages non plus. Donc, on n'a pas réponse à toutes les questions qu'on peut se poser. On n'a pas de quoi tirer une pelote bien longue. Et donc, après ça, vous êtes bombardé de questions. Puis, il y avait deux autres commissions. Il y avait une commission, je vais l'appeler psy, où on essayait de voir si on avait les aptitudes et pourquoi, etc. Et puis il y avait une commission motivation, avec trois magistrats en motivation, et ils étaient 4-5, dont peut-être bien un psy d'ailleurs à l'époque dans l'autre commission. Mm-hmm. Et tout ça s'est fait en une soirée.
Okay.
Et donc vous savez très vite si c'est réussi ou si c'est pas réussi.
Et vous avez réussi.
Oui. Et trois mois après, j'étais présenté pour une place au tribunal.
D'accord.
Donc j'ai prêté serment en août 2012, après un an de pratique pendant lequel j'ai fait quatre cours d'assises, une expérience de la vie extraordinaire, mm-hmm. une justice de luxe, dont on ne sort pas indemne, mm-hmm. parce qu'on se rend compte que... D'abord, on se rend compte que les journalistes, même quand ils viennent aux audiences, ne sont pas là en permanence et n'arrivent pas à faire passer tout ce que les gens ressentent. On en discute toujours avec le juré, enfin les membres du jury, après la session d'assises, et ils ont toujours des yeux comme ça en disant « c'est pas comme on le croyait ». On pouvait pas lire la presse, on l'a quand même fait. On s'est bien rendu compte que c'était pas ce qu'on avait dit ou que c'était pas comme ça. Enfin,
mais il y a toujours une part subjective. Hein. Je suis bien placée pour le savoir.
Bien sûr.
On a ce qu'on appelle un angle. Donc quand on va suivre n'importe quelle affaire ou événement, on part avec un angle. Donc c'est presque une idée préconçue et donc. C'est par ce prisme-là qu'on fait son sujet. Évidemment, quand on a un président d'assises et un jury qui, eux, le vivent de l'intérieur, c'est extrêmement frustrant. C'est une conversation que j'ai eue des dizaines et des dizaines de fois avec mes interlocuteurs. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, parfois, les journalistes sont mal considérés, parce qu'on a l'impression que ce sont des bonimenteurs, alors qu'ils ne racontent qu'une face, une facette de la réalité. Oui. Moi, je dis que la réalité, enfin la vie, c'est une boule à facettes. Et c'est l'ensemble de tous ces petits brillants qui fait la réalité. Et le journaliste, il va aller chercher juste un tout petit éclat. Et il n'a pas tort, mais n'a pas raison non plus, parce qu'il n'a pas l'ensemble de la boule.
Ceci dit, ce qui était très intéressant pour moi de ces expériences d'assises que j'ai eu la chance de faire avec des super magistrats comme président de session, c'est que ce que les jurés découvraient à l'égard du journalisme, m'en rendais compte aussi. Mm-hmm. Et donc j'ai commencé à changer moi-même mon point de vue mm-hmm. par rapport à ce que je lisais. J'ai toujours été très critique, mm-hmm. mais quand on me demande mon avis sur l'assassinat de machin ou l'attentat d'octobre, mm-hmm. qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait, c'est pas possible, il fixe son con ou n'importe quoi de café de commerce en fait.
Ouais.
Moi je prends ça même pas avec des pincettes.
Ouais.
Je connais pas le dossier.
Oui, c'est ça.
Je connais pas le dossier, il faut avoir cette humilité-là.
Tout à fait.
Et de même que quand vous avez une procédure qui se déroule devant vous, vous ne pouvez pas prétendre connaître les gens. Vous avez droit à une facette de leur vie, mm-hmm. qu'une partie présente et que l'autre, généralement, s'efforce un petit peu de démonter. Mm-hmm. Bon, peut-être que du chaos surgit la lumière. Mais okay. Donc, assise très intéressante. Et puis, j'arrive aux saisies. Et là...
Est-ce que c'était un choix ou vous l'a proposé?
On me l'a proposé et j'ai sauté dessus.
Parce que ça...
Mais parce que j'avais pratiqué des saisies quand j'étais plus jeune,
okay.
à tour de bras, avec mm-hmm. un illustre devancier, M. Goldenberg, pour ne pas le citer, mm-hmm. qui était une terreur dans sa salle d'audience. Et il fallait que ce soit précis, carré, il ne fallait pas s'approcher trop de lui. Il était extrêmement rigoureux. Et donc, il y avait une dimension technique qui m'intéressait beaucoup. Et puis, il y avait une dimension humaine. Et alors, ce qui m'intéressait, quand je quittais le cabinet d'avocat pour devenir magistrat, c'était de pouvoir toucher un peu à cette pâte qui est l'humain, quoi. M'affranchir de mes propres conditionnements, aller vers l'autre, découvrir, essayer de comprendre. Alors, le juge des saisies, on peut franchement s'interroger sur sa dimension humaine dans l'exercice de sa fonction. Parce que, je fais parfois des comparaisons qui ne sont pas très heureuses, mais les dossiers qui arrivent devant le juge des saisies sont des problèmes généralement d'exécution ou de mesures conservatoires.
Alors ça, il faut expliquer ce que c'est.
On va expliquer, bien sûr.
Mais peut-être qu'on l'expliquera quand on s'intéressera vraiment à ce que vous faites. Mais cet aspect humain m'intéresse.
Oui. Dans le cadre de la procédure, quand vous avez un titre qui est un jugement, par exemple, vous avez eu un différend avec votre voisin, avec votre partenaire commercial, avec votre époux, avec votre... Enfin, peu importe ce qu'il est. Et ça ne va plus, vous allez en justice. Et par exemple, dans le cadre d'un conflit familial, on va dire qu'un des deux membres du couple est parti pour refaire sa vie en oubliant derrière lui qu'il y avait des enfants dont il était toujours le père ou la mère. Et ça, c'est malheureusement très fréquent.
Oui.
Et donc, on a des condamnations à des payer des pensions alimentaires ou des provisions alimentaires, ça dépend pour qui elles sont, à qui elles sont dues. Et il arrive, malheureusement trop fréquemment, que le débiteur, le parent débiteur, ne paye pas. Et donc, on se retrouve avec une procédure d'exécution forcée. On vient dire, voilà, le tribunal de la famille m'a condamné ce monsieur à payer ça de provisions alimentaires. Il a condamné monsieur à payer des frais extraordinaires à concurrence de 65% et moi 35%. Il a défini les frais extraordinaires comme étant...
Oui, on a une liste très précise.
Depuis une réforme relativement récente, on a une liste bien plus précise et c'est heureux.
Un arrêté royal de 2019.
Mais qui malheureusement ne supprime pas tous les problèmes de la jurisprudence, notamment de la nôtre.
Oui.
Parce que pour nous, ce sont des dossiers un peu épouvantables.
Mais on va y venir.
On y reviendra. Et donc, le juge des saisies, à certains égards, c'est un peu comme l'oncologue. C'est la fin de la maladie, alors on sort avec les pieds par devant ou bien on sort sur ses deux pieds. Et parfois, c'est même les soins palliatifs. Il n'y a plus grand-chose à faire, ça c'est quand l'endettement est...
Quand l'endettement est trop important.
Trop important.
Et
donc, on peut avoir l'approche, je vais dire, purement technique. Le code judiciaire, article un tel, les conditions sont réunies, circulées, il n'y a plus rien à voir. Je pense que ce n'est pas ça le métier. Le métier, c'est de faire comprendre aux gens qu'ils ont pu verser dans l'erreur. Moi, je parle beaucoup avec les gens, ce qui, entre parenthèses, nous amènera peut-être à parler de la conciliation et la chambre de règlement amiable qu'on a mise en place. Je parle beaucoup avec les gens, j'essaie de leur expliquer, et j'essaie de faire des décisions, ça me prend trop de temps, je le reconnais, mais qui sont motivées techniquement, en sorte que celui qui perd peut dire « je ne suis pas d'accord avec la solution, mais je la comprends ».
Oui.
Si j'ai déjà ne fût-ce que ça, et s'il est d'accord, en plus c'est encore mieux, mais si j'ai déjà ça, c'est très bien. Et comme magistrat, bon, chacun a sa personnalité évidemment, moi j'interpelle assez régulièrement les gens quand ils viennent pour ce genre de litige, qui sont en personne, je les interpelle, en leur faisant comprendre des choses qui sont basiques, mais qui sont tellement vrai et qu'on oublie, c'est que, par exemple, dans ces conflits familiaux entre ex-conjoints, je dis toujours que je peux comprendre que l'amour a cédé le pas à un désamour, mais que curieusement, on constate que dans la phase de désamour, on est plus sévère, plus méchant avec l'autre qu'on n'a jamais été avec les ennemis qu'on croyait avoir, et qu'on est prêt à faire n'importe quoi parfois pour embêter l'autre. Ne pas payer, refuser toute demande de frais extraordinaires, demander la garde des enfants alors qu'en réalité on n'a rien à faire, on n'est pas capable de l'exercer, ce sera la grand-mère qui...
Enfin,
vous connaissez ça dans votre pratique de familialiste.
Je connais ça par cœur.
Voilà. Et moi j'essaie de leur faire comprendre que ce qui m'intéresse, moi, ce sont les absents dans la pièce. les enfants.
Oui.
Pas seulement toucher à l'ordre public.
Mmh.
Et donc, j'ai déjà eu des résultats comme ça extrêmement surprenants, où dans les conclusions, on avait des rejets catégoriques de certains postes de dépenses. Et puis, en les amenant un peu à s'ouvrir, à essayer de comprendre l'autre, des revirements. Et donc, ça, c'est très valorisant, parce que on ressort presque avec une solution qui leur convient, parce qu'ils ont marqué accord sur plein de choses. Et ce qui ne fait pas l'objet de l'accord, c'est tranché par le juge. Donc, là, on touche de l'humain. Et on doit respecter le justiciable, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. On ne doit pas venir avec ses a priori, ses préjugés. Mais il ne faut pas oublier que le juge aussi est un être humain.
Oui.
Il se lève de mauvaise humeur, il dit pied gauche, il est malade. Peut-être qu'il a aussi des difficultés de couple. Le tout, c'est de ne pas se projeter en disant que toutes les femmes sont nécessairement comme ça, parce que moi, je suis un homme et j'ai un problème avec ma femme.
Oui.
Je n'ai pas de problème avec ma femme, je précise.
C'est bien de le préciser.
Oui.
Très bien. C'est extrêmement intéressant de commencer le podcast par cette fenêtre-là. Alors, là, on a brossé le contexte. Maintenant, on va essayer d'explorer ce que vous faites tous les jours. Quel type de dossier arrive sur votre bureau ? Alors, on a compris que ce sont, pour schématiser, les gens qui ne payent pas, et donc la partie qui attend son paiement, donc ce qu'on appelle le créancier, qui va vous saisir. Alors, mais dans quel type de dossier est-ce que vous êtes susceptible d'être saisi ?
Alors, le problème, pour vous expliquer mon métier simplement, c'est qu'on est dans une partie du code judiciaire, la cinquième partie, qui est extrêmement technique.
Oui.
Et qui est balisée par de nombreuses règles d'ordre public.
Alors, il faut expliquer ce que c'est que les règles, ce que sont les règles d'ordre public.
Ce sont des règles qui sont essentielles pour le bon fonctionnement de la société. Je fais volontairement simple et auxquelles on ne peut jamais déroger.
Est-ce que vous pouvez donner un exemple ? Parce que là, c'est... Moi, je le comprends, mais c'est pas très...
Par exemple, une donnée technique, l'article 1334 du Code judiciaire. C'est une disposition qui prévoit que lorsqu'une exécution est pratiquée sur base d'un titre authentique autre qu'un jugement, on pense par exemple à une grosse hypothécaire, je prends l'exemple du crédit bancaire, vous souscrivez auprès de Fortis, BNP Paribas Fortis, pardon, enfin, c'est là où n'importe quel autre banquier, je ne suis pas payé, je n'ai pas d'accord, un crédit bancaire, il n'est pas respecté, il est garanti par une hypothèque, il n'est pas respecté. Et on commence la procédure après avoir été devant le juge de paix dans le cadre d'une conciliation, procédure gracieuse, qui est organisée par le Code de droit économique. Après cela, si elle échoue, on rentre dans la phase judiciaire du procès, enfin de l'exécution, pardon. Et le premier stade, c'est ce qu'on appelle la signification d'un commandement de payer. L'huissier vient chez vous, il dit « Voilà, je suis envoyé par la banque BNP ». En vertu de telle grosse hypothécaire, un acte authentique de crédit qui vous a été consenti par, devant maître Ruban à telle date, vous devez autant, je vous mets en demeure de le payer, sous peine de quoi je procéderai à la saisie de l'immeuble, généralement celui qui a servi à auquel le crédit hypothécaire a servi pour le financement. Si on vient sur base de la grosse hypothécaire pour s'opposer au commandement, on a un délai de 15 jours qui permet de demander des termes et délais. Pourquoi ? Parce que l'article 1333, si c'est un jugement, c'est le juge du fond qui tranche l'affaire à qui on demande les termes et délais. Si on ne les demande pas, tant pis. Si on les demande et qu'on ne les obtient pas, tant pis. Si on les obtient, tant mieux. Dans le cas de l'acte authentique du notaire, il a pu être rédigé ou passé 15 ans plus tôt. Il n'a pas la même immédiateté exécutoire que le jugement. Le jugement, le juge, il a fait le point tout de suite. Il a dit « Ah, mais oui, je reconnais, vous devez autant, je vous condamne à autant, il les intéresse autant, et vous payerez les dépenses d'autant. » Le commandement, quand il porte là-dessus, il n'y a pas de possibilité de demander des termes et délais. L'article 1334, quand vous venez avec la grosse hypothécaire, vous avez un délai de 15 jours prévu à peine de déchéance pour demander des termes et délais. Si on vient le 16e jour, il n'y a pas de théorie de nullité qui joue. Il n'y a pas de nullité sans grief, il n'y a pas de nullité sans.
Alors ça,
sans
il faut texte. Expliquer. Là, vous avez
été trop vite.
Vous avez perdu tout le monde. Ouais. Donc, on va résumer. Donc, si on a, on va revenir aux fondamentaux. Donc, quand on achète une maison, mmh. on va à la banque, on dit voilà, j'ai trouvé la maison de mes rêves, j'invente. À Waterloo, elle est magnifique, quatre façades, un magnifique jardin. La banque, en fait, elle vous prête pas pour vos beaux yeux. Oui, elle va prêter parce que vous avez un salaire confortable, mais elle prête aussi parce que elle fait une inscription hypothécaire, c'est-à-dire que la maison sert de garantie. Ça veut dire que si on ne paye pas, la banque peut saisir la maison, la vendre pour récupérer les sous
et
qu'elle vous a prêtés.
Elle est prioritaire sur le prix de réalisation.
Et elle est prioritaire si elle fait cette saisie, c'est la première qui se sert sur l'argent de la vente.
Elle échappe au concours.
Voilà.
Ça, on peut rater un traité.
Ça, c'est trop technique. On va s'en tenir à ce fondamental-là. Ouais. Ouais. Donc, ce que vous étiez en train de nous dire, c'est que si moi, j'arrête de payer mon crédit hypothécaire, mon prêt hypothécaire, la banque va s'agacer un petit peu, je vais recevoir un, deux, trois rappels, et puis à un moment donné, ils vont se dire, bon, là, ça a assez duré. Et donc, elle va envoyer un huissier qui va nous présenter un commandement de payer.
Oui.
Quand je reçois ça, je dois aller vite.
Oui.
Je dois faire quoi? Je dois le demander les termes et délais à la banque.
Au juge des saisies.
Au juge des saisies. Donc ça veut dire...
Il faut consulter un avocat en extrême urgence.
Ok. Donc ça veut dire que...
Je vais aller un stade avant.
Ok.
Parce que c'est important. Mm-hmm. Comme c'est un crédit hypothécaire qui est destiné à des consommateurs, mm-hmm. on va dire ça comme ça, mm-hmm. il y a toutes des règles protectrices.
Oui.
La première des règles protectrices, je m'excuse pour le chiffre, c'est Romain 7, article 127... Romain 7, 127, barre 24, ou 44,
ouais.
24. C'est pour vous dire, on a tellement fait de changements dans ce code de droit économique qu'on y met des barres et des romains, et des enfin, soit. Le passage obligatoire, c'est une conciliation pour essayer de voir s'il n'est pas possible de convenir d'un plan de remboursement pour éviter le trouble social que constitue la vente de la maison, de l'appartement qu'une famille occupe et qui était financée par la banque.
Mmh.
Alors... Deux possibilités s'offrent au banquier.
Si vous continuez à pousser le micro, on ne vous entendra plus. Hein.
Je ne m'en rendais pas compte.
Non, mais c'est pas grave. Donc vous disiez...
Deux possibilités. Ouais. La banque trouve un accord avec le consommateur.
Mm-hmm.
Remboursement 6 mois, 10 mois, 12 mois. Certains, comme le Fonds Bruxellois du logement... monte jusqu'à 36, voire 70 mois.
Mm-hmm.
On voit directement qu'il n'y a pas la dimension commerciale, qu'il n'y a pas le même taux d'intérêt, c'est plus social.
Oui.
Ou bien on ne trouve pas d'accord.
Mm-hmm.
Alors, quand on ne trouve pas d'accord, et on reviendra peut-être sur ce que moi je fais dans le cadre de ces conciliations-là, on acte un procès-verbal de non-conciliation.
Oui.
C'est la première étape qui permet de lancer la procédure.
Oui.
La procédure, c'est le commandement de payer.
Mm.
Après le commandement de payer, si on n'a pas payé dans le délai qui est imparti, à partir de 15 jours minimum et 6 mois maximum, on peut faire procéder à une saisie-exécution immobilière.
Mm-hmm.
L'huissier vient et dit, voilà, je saisis le bien.
Mm-hmm.
Ça ne veut pas dire que les gens doivent sortir du bien. Ils restent à leur disposition jusqu'au moment où le bien sera vendu,
oui.
à supposer qu'on aille aussi loin dans l'exécution forcée.
Mm-hmm.
Après ce stade-là, il y a un stade où on demande la désignation d'un notaire, pour faire l'adjudication
mmh.
et ce qu'on appelle les opérations d'ordre.
Mmh.
C'est-à-dire, le bien a été vendu, exemple, 550 000.
Mmh.
Il y a 50 000 de frais de justice qui sont privilégiés. Il en reste 500. Chez le banquier hypothécaire, qui a encore une créance de 350, il passe en premier.
Mmh.
Il reste encore 100, si j'ai bien compté.
Mmh.
Il reste encore 100 pour payer les autres créanciers. On respecte leur rang,
mm-hmm.
et s'il n'y a pas de rang, s'ils sont tous, par exemple, des créanciers chirographaires, c'est un très vilain nom, mais pour expliquer que ce sont des gens qui n'ont pas de sûreté, de mécanisme de préférence,
mm-hmm.
On fait un partage au marre le franc. C'est-à-dire que s'il y a la moitié de ce qu'il y a pour payer tout ce qui est dû, chacun recevra la moitié de sa créance, pas plus.
Oui, on va ralentir là, parce que je pense que c'est aussi...
Mais c'est pas très important, ça.
C'est pas important, mais c'est simplement pour dire que...
C'est technique.
C'est technique. Mais donc, quand on a une saisie, il y a des créanciers, donc les personnes auxquelles on doit de l'argent, elles n'ont pas toutes la même valeur. Il y a comme un podium. Et en général, bah, la banque, elle arrive en premier. Très souvent, l'État arrive très vite derrière. Donc, si on a des dettes d'impôts, des dettes de TVA, donc l'État arrive très vite derrière. Et puis, si par exemple, on doit une facture à son garagiste ou à son médecin, bah, eux, ils arrivent très loin derrière.
Très loin. Oui. Le garagiste, il n'aura rien du tout.
Non. Voilà.
S'il n'a plus la voiture entre ses mains.
Voilà. Et donc, ça, c'est important quand même de, de le spécifier, de faire une petite parenthèse.
Et donc, moi, ce que je fais, par exemple, je constate qu'un... Je connais mes avocats hein, qui viennent pour les banques. Je sais à l'avance que tel avocat pour telle banque, il a mandat d'accepter 6 mois, peut-être 10. Mais l'endettement est peut-être parfois de 10-12 mois. Donc, si vous lui dites qu'il faut payer en 10 fois l'arriéré et ne pas créer une nouvelle arriérée, ça veut dire qu'il faut payer une double mensualité chaque mois pendant 10 mois.
Oui.
S'il y avait des motifs légitimes, compréhensibles, on va dire, de ne pas payer, ben, payer le double,
c'est pas possible.
C'est pas possible non plus, c'est pas raisonnablement possible. Alors, ce que je fais, maintenant, je leur explique à titre individuel, parce que les règles du Covid sont passées par là. Avant, je convoquais à 8h45. L'audience commençait à 8h45. Et à 9h, 9h05, quand les gens avaient eu le temps de rejoindre le palais, je faisais une explication d'un quart d'heure aux gens pour leur expliquer toute la procédure. Pour leur dire, parce que, aussi étonnamment que ça puisse paraître, 85-90% des gens viennent sans avocat.
Ah.
Alors qu'on parle de vendre leur maison, potentiellement. Ils viennent sans avocat. Donc il est important de leur dire quand ils doivent aller voir un avocat. J'essaie de dédramatiser, parce que je suis adepte du principe que les choses sérieuses ne doivent pas être faites à gravité. Donc, je leur dis, vous avez le droit de mettre la tête dans le sable pendant une journée. Si vous voulez vous saouler, vous pouvez vous saouler, mais pas plus d'une journée. Et le deuxième jour, vous courez chez l'avocat, parce qu'il n'y en a déjà plus que 13 pour faire le recours. Et donc, je leur explique ça. Et les avocats des banques ne m'ont jamais interpellé en disant, hey, vous allez trop loin, vous aussi, là...
La branche sur laquelle on est assis.
Exactement. Ils savent très très bien que parfois ils sont un peu durs aussi. Quoi. Mais c'est une juridiction, celle-là, c'est gracieux. Je ne sais pas dire au banquier, vous allez accepter les termes et délais. Il faut qu'il y ait une procédure qui soit faite devant le juge saisi avec une autre casquette. Et ça, faire un recours en justice sans avocat,
c'est
voué à se casser la figure. Quoi.
C'est ça. Donc... Le conseil que vous donneriez, c'est dès qu'on reçoit un courrier de la banque, on peut se mettre la tête dans le sable un petit peu, mais il faut très vite courir chez un avocat et, pour se faire aider. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai... C'est curieusement, vous l'avez dit, et moi je l'ai constaté, de nombreuses personnes, elles se font... On leur explique qu'on va saisir leur maison et consultent l'avocat quand c'est trop tard, en fait.
Souvent.
Et je ne m'explique pas la raison de... Est-ce que c'est le stress ? Vous avez une explication, vous ?
Je ne suis pas en mesure de consacrer beaucoup de temps. J'ai 40 à 55, 60 dossiers sur une matinée. Donc, ça doit aller relativement vite, mais je prends le temps de les accueillir individuellement. Mais je ne peux pas sonder tous les cœurs et les reins.
Oui, oui.
Parfois, c'est une spirale d'endettement... carabinés, c'est pas le seul problème qu'ils ont. On constate que ça arrive quand le couple se sépare. Il y en a un des deux qui est résident, qui ne paye pas le crédit hypothécaire, qui s'est engagé à payer, et qui veut pas qu'on vende, parce que tant qu'il est résident, il a gagné, il ou elle, hein, je veux dire, peu importe. Parfois, j'ai vécu ça, un cas vraiment pathétique, c'était un homme qui était indépendant, qui avait acheté un immeuble de rapport à Molenbeek. Et il avait mis en location 2 des 3 appartements. Il en occupait un et les deux autres étaient loués. Et toute la capacité de remboursement reposait sur son salaire. Il n'était pas indépendant, il était employé ouvrier. Comme employé, comme chauffagiste ou un truc dans le genre.
Oui.
Et son salaire plus les 2 loyers. Un locataire a commencé à ne plus payer.
Ça a été la descente aux enfers.
Vous le savez comme moi, ça prend quand même des mois pour arriver devant le juge, avoir sa décision, etc. Et encore, il faut qu'il soit solvable pour que ça puisse fonctionner. Et alors, l'autre locataire, c'est encore pire. Il était parti à la cloche de bois, mais tenez-vous bien, il avait tout démonté. Dans la salle de bain, il était parti avec la baignoire, les robinets, il a mis des bouchons vissés dessus, etc. Donc
le bien n'était même pas...
Le bien n'était plus relouable.
Non.
Et j'étais plus mal que lui. C'était au début de ma carrière de, j'étais franchement plus mal que lui.
Oui.
C'est presque lui qui devait me taper sur l'épaule pour me...
Vous dire, allez, ça va aller, monsieur le juge.
Oui.
Mais ça, c'est des situations qui sont terribles.
Comme ça, qui sont effrayants. Moi, je vois parfois des gens qui viennent avec des crédits, des gens qui vous disent, je ne suis pas... Je travaille pas, je suis à la mutuelle, machin, comme ça. Et ma femme, elle ne travaille pas non plus. Mais où les crédits qui ont été consentis en 100 ans, c'était entre 500 et 850 000 euros.
Oh, mon Dieu.
Et on se dit, mais... Je dis, qu'est-ce qu'ils ont, ces gens, pour justifier l'octroi d'un crédit?
Oui.
Moi, j'ai déjà souscrit des crédits dans ma vie, mais...
Oui, c'est...
On ne partait pas des mêmes conditions, quoi.
C'est ça.
Et donc, il y a des choses comme ça qu'on ne comprend pas toujours bien.
Mm-hmm.
Et donc, il faut essayer de faire passer des messages, quoi. Mm-hmm. Parce que...
De ne pas prendre des crédits à la légère, parce que si on a un accident de la vie... Oui. C'est la catastrophe.
Vous savez, il y a des établissements financiers qui sont réputés pour refinancer les crédits,
mm-hmm.
même si on est déjà dépisté ou enregistré comme débiteur irrégulier à la Banque nationale de Belgique.
Oui.
Il y a des banques, pas énormément, mais il y en a qui refinancent. Mais le risque, il est important pour le banquier. Et donc, il se fait payer très cher pour ce risque, avec des intérêts qui sont bien plus importants que ceux des autres banques, je veux dire, commerciales.
Mm-hmm.
Et avec aussi derrière une politique qui est de recouvrement des incidents le plus rapidement possible.
D'accord. Donc, ce que vous êtes
en cas de nouveau défectuosité de paiement, on n'attend pas 6 mois, 1 an. Hein.
Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si d'aventure, on a des grosses dettes et on se dit, ah ben tiens, j'ai trouvé une super banque qui accepte de me refinancer, même si je suis un mauvais payeur et que je suis fiché à la Banque nationale, ces gens-là, ils ne le font pas pour nos beaux yeux. C'est-à-dire que s'il y a une mensualité qui n'est pas payée...
Ce sera peut-être plus qu'une, quand même.
Alors,
ce sera
deux, trois, mais ils ne vont pas nous louper et ils ne seront pas conciliants et ça va être extrêmement cher.
Oui.
Ok. Donc ça, ce n'est pas le bon plan non plus, alors.
C'est le plan auquel beaucoup essayent de souscrire, parce que je peux comprendre le besoin légitime de conserver le toit au-dessus de sa tête.
Mm-hmm.
On voit les histoires familiales qui sont dramatiques. Hein, je veux dire, quand on a fait signer par maman et papa qui sont pensionnés et qui ont consenti une hypothèque sur leur bien pour qu'un des fils... puisse acheter quelque chose et que le fils en question, il écoute pousser ses cheveux,
mm-hmm.
il ne bosse pas, il fait des conneries, enfin des bêtises, et il s'endette.
Mm-hmm.
Et puis quand on vient chercher la sûreté des parents, quand on leur dit, écoutez,
faut vendre votre maison.
On va vendre votre maison pour payer les dettes
de votre fils
que vous avez garanti.
C'est l'enfer.
C'est l'enfer.
Mm-hmm.
Il n'y a pas d'autre mot.
Le premier, je vais appeler ça le premier pôle, donc ce sont les saisies immobilières, donc quand on a arrêté de payer son crédit. On a évoqué au début du podcast les créances alimentaires, donc les pensions alimentaires, les mm-hmm. contributions alimentaires et les frais extraordinaires. Ça, c'est quelque chose que vous rencontrez beaucoup également?
Oui, beaucoup.
Ça représente...
En fait, pour essayer d'arriver à un petit peu de rigueur, on a les mesures conservatoires, les saisies conservatoires et les voies d'exécution.
Oui.
Mesures conservatoires, c'est je vous ai prêté de l'argent, vous ne me le remboursez pas et je m'en inquiète.
Mm-hmm.
Je demande qu'on vienne saisir conservatoirement, je demande au juge de saisir une autorisation de pouvoir pratiquer une saisie conservatoire de vos meubles, par exemple.
Mm-hmm.
Donc l'huissier vient chez vous, vous lui ouvrez la porte ou bien il la fait ouvrir par un serrurier. Et il note les biens dont il vous dit, voilà, ils sont saisis, vous ne pouvez plus en disposer.
Mm-hmm.
Vous pouvez les utiliser, mais vous ne pouvez plus les vendre ou quoi que ce soit, parce que c'est une infraction pénale.
Mm-hmm.
Et ça durera tant que durera la saisie conservatoire, autant que durera le procès au fond pour faire reconnaître la créance pour laquelle on a pratiqué la saisie conservatoire.
D'accord.
Les voies d'exécution, on n'a plus besoin de l'autorisation du juge des saisies.
Mm-hmm.
On a un jugement, on a un acte authentique qui reconnaît la débition d'une dette dans le chef de la personne contre laquelle on veut agir, là on fait des saisies,
mm-hmm.
qui peuvent être mobilières, les meubles donc,
mm-hmm.
immobilières, mais le bien dans lequel vous habitez, et qui peut aussi être ce qu'on appelle une saisie arrêt. Je vais aller entre les mains de votre employeur, lui demander de bloquer ce qu'il vous doit, parce que vous me devez de l'argent, une relation triangulaire.
Oui.
Alors, ça, c'est la pire.
Oui.
La CJRE, parce que ça bloque tout.
Oui.
Quand on saisit vos meubles, vous continuez à regarder la TV sans problème.
Mm-hmm.
Ben maintenant, la TV est un bien protégé par le pôle judiciaire.
Oui, ça c'est. Il faut expliquer aussi qu'il y a une liste de biens qu'on ne peut pas saisir, qu'on considère comme nécessaires pour la vie de tous les jours.
Le 1408. On a modifié dans le pôle judiciaire. Oui, parce qu'il y a encore des moutons.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y avait les poules, les moutons. Donc, comme la société.
Plus loin de l'actualité.
Voilà. Donc maintenant, la télé fait partie des biens qu'on ne peut pas saisir.
Un ordinateur.
Oui, le lit.
Oui, la table et le coucher, comme on l'appelait dans le temps, voilà. Ça c'était déjà.
C'était déjà protégé. Le cas à l'époque.
Mais on a très peu de problèmes avec les biens saisissables, ou plutôt insaisissables.
Mm-hmm.
Vraiment très peu, parce que l'huissier, en général, fait bien son boulot.
Oui.
En tout cas, s'il le fait mal, ça ne remonte pas assez jusque chez nous.
Oui. Donc. La saisie immobilière, donc ça c'est quand on va saisir les meubles, donc on ne va pas les chercher tout de suite, mais on les note.
On les note.
Et donc en gros, on négocie avec l'huissier en lui disant, bon ben c'est bon, notez, mais moi je vais rembourser autant par mois. Et souvent ça s'arrête là.
S'il est d'accord.
S'il est d'accord.
Et contient le remboursement promis ou annoncé, ça en restera là, effectivement.
Il y a la saisie immobilière, ça on en a parlé tout à l'heure. Et puis vous parliez de la saisie entre les mains d'un tiers. Donc ça... C'est la faculté de la personne à qui vous devez de l'argent de s'adresser directement à votre employeur, à l'organisme de chômage, à la mutuelle, pour saisir, donc vraiment bloquer le salaire ou l'allocation. Et donc, on va prendre l'exemple de la contribution alimentaire. Mmh. Là, il n'y a pas ce plafond de...
L'insaisissabilité.
Voilà. Donc, le plafond en dessous duquel...
C'est nos limites.
Là, c'est nos limites. Ça veut dire que quand vous prenez le risque de ne pas payer la contribution alimentaire à laquelle vous avez été condamné, donc pour l'entretien et l'éducation de vos enfants, vous prenez le risque de ne plus avoir de salaire pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Est-ce que je me trompe ?
Non, pas du tout. C'est parfaitement exact.
Mm-hmm.
Et que ce soit au stade conservatoire ou au stade de l'exécution.
Mm-hmm.
C'est pour ça que c'est une arme... qui fait parfois l'objet d'un usage abusif, que l'on sanctionne comme juge si on nous le demande.
Mm-hmm.
Parce que, pour prendre un exemple, le créancier d'aliments, exemple madame, dit « mon ex-mari n'a pas payé 4 500 € de frais extraordinaires.
Mm-hmm. »
Elle fait une saisie pour 4 500 € entre les mains du CPS, si le mari dépend du CPS, ou travaille au CPS, je veux dire.
Oui.
Ou de l'employeur, le garagiste par exemple.
Mmh.
Et le garagiste ne peut plus rien donner à son ouvrier. Or, cet ouvrier, ce papa, il doit vivre.
Mmh.
Il doit payer, si pas un crédit hypothécaire, à tout le moins un loyer.
Mmh.
Il a peut-être refondé une famille. Il a peut-être des gens qui doivent dépendre de lui économiquement pour se sustenter, pour manger, pour boire, pour vivre, etc. Donc c'est désastreux sur le plan social.
Oui.
C'est ce que je leur explique toujours quand ils viennent chez moi. On a le droit de secouer le débiteur, mais pas de le tuer.
Oui.
Et si vous transformez le débiteur, le papa en l'espèce ici, qui est un mauvais payeur, mais parfois avec des mauvaises raisons, parfois avec des raisons compréhensibles, on peut dire ça comme ça, si vous le transformez en squatter... Mais ce que je veux dire.
Oui, oui, mais s'il peut plus payer son crédit hypothécaire,
c'est la boucle qui
se voilà.
Route,
et si la banque vient lui réclamer des sous et le saisit, ben l'objectif recherché n'est pas atteint.
Donc parfois on se demande si on n'essaie pas de faire de ce père un SDF.
Oui.
Parce que il n'a plus continué à aller travailler chez son employeur s'il n'est pas payé.
Mm-hmm.
Donc il va aller faire du boulot en noir. Pour essayer de trouver quelque chose, parce que dès qu'il aura un boulot déclaré, on sait le vérifier par les banques de données sociales.
Mais alors, comment est-ce que vous abordez, vous dites que vous sanctionnez, comment est-ce que vous abordez ce type de situation ? Donc madame, elle n'en peut plus, monsieur systématiquement lui dit « non, je ne paye pas, ça ne m'intéresse pas, c'est pas vrai, tu n'as pas acheté d'ordinateur aux enfants, non, je ne veux pas ». Comment, en tant que juge dessaisi, vous abordez ce type de... Parce que c'est légion, c'est quasi toujours ce cas de figure-là. Parce qu'un papa un peu raisonnable, il va peut-être rejeter 2-3 frais extraordinaires en disant « Écoute, là, t'exagères, je te paye que 60%. » Là, madame, elle ne va pas saisir le juge dessaisi là-dessus. On a souvent des situations...
C'est pas madame qui va saisir, c'est le papa qui est coincé, qui va venir devant le juge dessaisi pour faire lever la mesure de saisie.
Oui. Donc madame va opérer une... Donc madame fait appel à l'huissier en disant « Voilà, vous me saisissez ce monsieur. » Donc l'huissier fait ce travail-là d'écrire à l'employeur en disant « Monsieur ne paye pas, donc merci de bloquer la somme. » Et le papa, comme il se trouve étranglé, va vous saisir, vous, en tant que juge des saisies.
Exactement.
On est bien d'accord. Oui. Donc vous, quand vous avez ce papa qui se présente devant vous, qui vous recevez tous les documents quand on a l'échange de conclusion, je ne vais pas revenir sur toute la procédure devant un juge. Quelle est votre approche? Est-ce que vous dites « Ok, j'ouvre mon code judiciaire et je vérifie si ces dettes sont effectivement dues » ou vous mettez un petit peu plus d'humanité?
Je mets beaucoup plus d'humanité. À titre personnel, mes collègues juges saisis francophones avec lesquels on se réunit une fois ou deux par an sont un peu tous les mêmes. Certains ont plus la fibre sociale ou le sens de la répartie ou, ou du sermon ou biffer les mentions. On n'est pas là pour faire de la morale à deux balles. On est là pour essayer de faire comprendre des choses. Et moi, les choses, j'essaie de les faire comprendre dès le premier jour de la procédure, à l'introduction.
Oui. Donc la toute première audience.
Toute première audience. Si madame et monsieur sont là, je leur explique que monsieur, si c'est monsieur qui est débiteur, statistiquement, malheureusement, dans 80-90% des cas, c'est dans ce sens que ça marche.
Oui.
Mais on va lui dire, est-ce qu'il n'est pas pensable de trouver une solution d'attente temporaire pendant qu'on met la procédure ici en état, jusqu'à ce que le juge saisie tranche le différend en disant, on va lever les effets de la saisie pour permettre à monsieur, s'il n'est pas endetté par ailleurs, de continuer à vivre, parce que monsieur a un bon boulot dans son garage, et qu'il ne va pas déménager, et qu'il est son employeur, parce que madame a vu faire une saisie. Et donc, quelque part, on privilégie, ou j'essaie de privilégier, le respect des êtres humains, l'intérêt des enfants qui ne sont pas là pour se défendre, l'intérêt de madame aussi, qui doit un peu comprendre ce qui se passe, et les amener à trouver une solution par eux-mêmes. Parce que la solution qu'ils vont trouver par eux-mêmes m'évitera un recours ultérieur. Bon, si on n'y arrive pas, on met l'affaire en état et on plaide. Mais ces dossiers-là, tous mes collègues sont d'accord pour le dire, ce sont vraiment des clous de cercueil.
Oui.
C'est épouvantable. On a eu des dossiers avec 500-600 postes de frais extraordinaires sur 5 ans, parce qu'on n'a jamais réclamé. Enfin, c'est ce que c'est. On dit qu'on a réclamé, mais on n'a pas la preuve. L'autre dit qu'il ne les a pas reçus, qu'il n'était pas d'accord. Enfin,
oui.
Et donc, on fait des tableaux.
Oui.
Ligne par ligne, poste par poste.
Oui.
Ça a coûté autant. C'est la pièce numéro 1 telle. La mutuelle est intervenue pour autant. Ou l'assurance, protection, machin, est intervenue pour autant. Ta quote-part, c'est 65% ou 50%, ça fait autant. Tu as déjà versé autant. Enfin, bon. Et alors, on valide tous les postes. Ça marche bien, mais c'est chronophage.
C'est ce que j'allais dire.
Ça pompe une audience complète, parfois pour les gros dossiers, voire plus. Et pour rédiger, c'est épouvantable. Et c'est là que je voulais peut-être en arriver à la conciliation, la pure, la vraie, la dure. Je faisais un peu de la conciliation sans le savoir ou en dehors du contexte. Et en décembre 2021... j'ai proposé à Mme Dessier, la présidente du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, de mettre en place une chambre de règlement à l'amiable civil, inspirée très largement du mode de fonctionnement de la CRA familiale, parce que je ne voulais pas que les avocats bruxellois qui participent à cette CRA arrivent chez moi en étant complètement décontenancés parce que les règles ne sont pas les mêmes. Donc elle a sauté dessus, elle était enthousiaste, il faut reconnaître, et on l'a lancée en mai 2022. Et avec un bon succès, 25 dossiers environ, je crois que j'ai eu 3 échecs.
Ah oui, c'est pas mal.
Et le premier, mais c'est pas... Non, je vais pas évoquer le premier, c'était assez extraordinaire, mais 2 procédures à la cour d'appel et 3 tribunaux de première instance qui ont été réglées d'un seul coup.
Ah ben voilà, c'est magique.
C'est magique. On ne pouvait pas faire mieux pour lancer. Ouais. Mais on a réussi à faire des questions de frais extraordinaires aussi, des litiges de frais extraordinaires. Mm-hmm. Et maintenant, il y a une demande qui arrive, on sent le barreau frémir, parce que les avocats familialistes sont tous sensibles au droit collaboratif, à la médiation, à la conciliation. Ils se forment en la matière.
Oui.
Et puis ils se rendent compte qu'il y a moyen de sortir gagnant d'une procédure et pas nécessairement perdant.
Mm-hmm.
Et donc, on a mis ça en place et on s'en réjouit. Et le législateur aussi s'en réjouit, puisque le 19 décembre, il a adopté une loi qui, je ne vais pas dire régularise, mais transpose assez largement ce qui se passait au tribunal de la famille en CRA. Mmh. Chambre des règlements à l'amiable, pardon.
Oui, il y a Madame le juge Montero Barreto qui en parle longuement. Alors je me perds dans les numéros de mes podcasts, mais en tout cas, je pense que c'était le dernier épisode de la saison 3. Et donc, elle a une chambre CRA qu'elle préside, elle explique comment ça fonctionne, comment est-ce qu'elle s'y prend pour obtenir... des accords qui sont équilibrés, puisque c'est les personnes elles-mêmes qui les trouvent, plutôt que d'avoir une décision prise par le juge, qui est obligatoire, du coup. Et si on n'est pas d'accord, tant pis, on peut aller en appel, mais...
Oui, mais c'est long.
C'est très long, c'est chronophage.
L'appel à Bruxelles en matière de saisie est traité dans des délais extrêmement courts.
Oui.
Entre 6 mois et 18 mois pour les dossiers les plus longs. Et 18 mois, c'est quand les gens n'ont pas été pressés de mettre en état, parce qu'elle peut faire très rapidement, Madame de Griffe, à la Cour d'appel de Bruxelles.
Mais 18 mois, ça reste quand même long.
Oui, mais encore une fois, c'est parce qu'ils ont demandé... Vous n'êtes pas très étonné, il y a une saisie arrêt, on vous demande des délais de 3 mois pour faire les premiers jeux de conclusion, alors que c'est censé être urgent.
Oui.
Mais moi, ce qui me plaît beaucoup dans la CRA... C'est que, et pourquoi est-ce qu'elle marche bien? C'est pas parce que le juge conciliateur est particulièrement doué. Il a intérêt à avoir un peu une fibre sociale et une capacité de réagir. C'est extrêmement fatigant parce qu'il faut intégrer tout pour rebondir, etc. Mais fondamentalement, je crois qu'il faut être modeste. Le succès de la formule, c'est que c'est un magistrat qui le fait. C'est pas un tiers que l'on paye, c'est pas un autre avocat, c'est un magistrat. Et comme il ne va jamais connaître du fond de l'affaire... En cas d'échec de la procédure de conciliation, il peut se voir demander « Que pensez-vous des chances de succès de mon recours ?» dans ce qu'on appelle des caucus singuliers.
Oui.
Donc c'est les réunions en tête-à-tête entre le magistrat, l'avocat et son client, en dehors de l'autre partie.
Oui, donc je pense qu'il faut préciser. Donc dans une conciliation, à un moment donné, on peut demander à sortir et poser des petites questions que l'autre partie n'entend pas pour mieux comprendre vers où on a envie d'aller. Parce que si on ne comprend pas la procédure, dans le cas d'espèce, vous venez d'expliquer, on peut aller demander en aparté, tiens, vous pensez quoi de mon dossier? Est-ce que vous pensez que ça a des chances d'aboutir? Alors, vous ne connaissez pas le fond du dossier, mais vous avez une vague idée en tant que magistrat. Et vous pouvez leur dire... c'est mort ou éventuellement. Et donc, ça donne une autre orientation, du
Exactement.
Coup.
Exactement. Par rapport à un médiateur qui, lui, est strictement impartial.
Le médiateur n'a pas le droit.
Il n'a pas le droit.
Il n'a pas le droit. Déontologiquement, il ne peut pas. Alors que vous, vous n'avez pas les mêmes règles de déontologie. Donc, vous pouvez expliquer aux gens, là, vous allez droit dans le mur tous les deux. Je dis ça, je dis rien, en gros.
C'est sûr que si vous venez avec un écrit que vous avez signé chez le notaire, que vous êtes normalement constitué, que vous avez de la matière grise à suffisance, qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu abus de... Et que vous venez 10 ans après en disant « Oh non, j'ai signé ça, mais il n'était pas prévu que je rembourse. » C'est ce qu'on appelle en droit civil « prouver outre et contre un écrit ». Il faut se lever très tôt pour y arriver, quoi. Et c'est assez amusant, c'est dans ces cras... j'ai parfois eu l'avocat qui me demandait d'avoir un caucus avec le juge et son client, parfois sans le client aussi. Toutes les formules sont possibles. Et j'ai vu un avocat qui me disait, monsieur le juge, est-ce que vous voulez bien expliquer à mon client ceci ou cela, ou comment ça fonctionne ceci ou cela, parce qu'il avait le sentiment qu'il n'avait pas été capable de faire passer le message à son client, parce que son client ne voulait pas le croire, tout simplement.
Oui, mais ça arrive souvent.
Et donc là, c'était le juge. Et donc c'est pour ça que je dis on doit la jouer de façon assez humble, parce que c'est parce que j'ai une robe de magistrat, quoi.
Oui.
et que je suis un peu au-dessus de la mêlée et que je connais la jurisprudence, je ne vais pas leur dire ce que ma collègue va trancher et quelle est sa jurisprudence.
Non.
Ça, je ne fais pas. Je peux dire que moi, il me semble qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation qui dit cela. Et vous comprenez ce que vous voulez.
Et alors cette CRA, qui la demande? Bon, j'imagine que quand les parties vous la demandent, ça c'est vous l'accorder. Mais est-ce que vous dites aux gens, bah, tiens, est-ce que ce serait pas mal d'aller en CRA? Donc c'est à l'audience d'introduction qu'on la demande?
Oui. Alors c'est assez amusant parce que j'ai été absent pendant quelques mois. Mais quand je siégeais, j'avais rarement le réflexe de m'envoyer le dossier en CRA. Parce que j'avais inconsciemment une petite réticence. C'est que si jamais je ratais la CRA, j'envoyais le dossier à ma collègue.
Oui.
Et je ne souhaitais pas qu'elle puisse imaginer, elle ne l'a jamais fait, hein, que je puisse évacuer les dossiers pénibles.
Ok, d'accord.
Et donc, j'ai traité plus de CRA venant de chez elle que l'inverse.
D'accord.
Mais elle ne fait pas de CRA. Elle n'a pas la fibre pour ça.
Mais elle y croit, puisqu'elle vous envoie des dossiers.
Mais le premier que j'ai reçu, c'était un dossier de chez elle qui avait été un peu compliqué à gérer. Et elle m'avait dit, je te ferai le champagne si tu le réussis.
Et elle vous a offert une caisse de champagne.
Non, une bonne bouteille. On avait dit une bouteille, pas plus.
Ok. On a parlé de la saisie, donc les saisies conservatoires, on a parlé de la saisie immobilière, on a parlé de la saisie arrêt. Là, on parle des dossiers en matière familiale qui sont particulièrement difficiles, lourds, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel, c'est sur fond de vengeance. Ah, tu m'as quitté, t'es parti avec ta secrétaire, je vais te le faire payer.
Et si en plus, monsieur ou madame a eu la mauvaise idée de faire des nouveaux enfants après.
Oui.
Ça, c'est... Parfois, c'est perçu comme l'injure suprême.
Oui.
La déloyauté au cube.
Oui. Ok, donc vous me disiez tout à l'heure, donc vous essayez de faire preuve d'humanité, mais... alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais vous êtes quand même tenu par un certain nombre de règles qui sont très précises. Donc, dans une affaire de frais extraordinaires, ben, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, ben, parfois, il y en a un qui soutient qu'il a pas reçu la demande de frais ou la personne est pas très régulière et envoie les frais extraordinaires avec retard ou sans les pièces justificatives ou avec un décompte qui n'est pas tout à fait correct. Comment est-ce qu'on tranche ce genre de choses? Là, on doit être beaucoup plus sévère, ou finalement, vous avez quand même une marge de manœuvre en disant, allez, quand même, ça concerne des enfants, ces enfants-là, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils aient un toit, il faut qu'ils puissent aller à l'école.
Je prends des exemples tout bêtes. Vous avez un poste, aspirine, 3,20 €. Est-ce que l'aspirine, c'est un traitement médical pour une maladie spéciale?
Non.
Non. C'est pas un poste de frais extraordinaire?
Non.
Donc ça, on fait comprendre
à madame.
À madame, en l'espèce, que faut pas pousser vos bonnes dans les orties.
Ok. Par contre, si on a des frais, par exemple, qui coûtent très très cher, les frais d'orthodontie, l'appareil dentaire. Monsieur dit, ah, j'ai jamais donné mon accord.
Oui, mais la question, c'est bien sûr, c'est l'accord, mais fondamentalement, est-ce que la bouche de l'enfant était une piste de bowling après avoir battu les quilles, avec les dents dans tous les sens, et constitutif d'un handicap, ou bien c'était de la pure convenance esthétique. Si on sait que l'enfant avait des problèmes, ça revient quasiment à reconnaître que le traitement était nécessaire.
Oui.
Donc on essaie de faire passer le message, quoi. En disant, est-ce que c'était pas indispensable de le faire? Et on y arrive quand même. Mais parfois, on est obligé de dire, il n'y a pas eu d'accord, donc j'écarte le frais. Parfois, on n'a pas eu l'accord, mais ça porte sur 4 €.
Oui.
Dans un poste de frais extraordinaire. J'ai vu des gens qui se battaient. Hein.
Pour 4
et,
euros.
Et puis à l'audience, on a vraiment discuté de ce poste. Le temps qu'on va y passer tous les trois.
Oui.
Si vous voulez, je mets ma poche.
Et donc, vous prenez vraiment le temps, à l'audience, de regarder poste par poste?
Oui.
Okay.
Oui, parce que si on ne le fait pas, j'ai le sentiment qu'on passe à côté de certaines choses.
Oui.
Le message aux gens. Moi, j'ai envie qu'ils sortent avec un mode d'emploi.
Oui.
Et que surtout, on ne se revoie plus.
Oui.
Ou alors pour boire un thé, ou je ne sais pas, mais...
Vous buvez des thés avec vos justiciables.
Mais c'est mieux que de boire du vin. Ou...
C'est vrai. Vous disiez tout à l'heure que ce fameux arrêté royal qui définit les frais extraordinaires n'avait pas tout résolu. Quels sont les écueils? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour que les gens évitent de se retrouver
non,
devant
le,
vous?
Le problème, ce n'est pas tellement d'améliorer l'arrêté royal, c'est d'améliorer les gens qu'il faudrait faire.
Ah, oui, mais ça, on n'est pas rendu, hein, comme dirait l'autre.
Absolument, je partage votre analyse. Non, c'est ça le problème. Vous avez beau avoir une liste de frais extraordinaires bien précise, assez longue, etc., etc. Si vous les contestez pour des bonnes, enfin, surtout pour des mauvaises raisons, vous vous retrouverez dans le juge des saisies.
Mm-hmm. Oui.
C'est inévitable. Les bagarres classiques, c'est l'ordinateur.
Oui.
Il fallait acheter un ordinateur à 300 euros. Mais bon, moi, je connais un peu en informatique. Je dis, mais pour 300 euros, vous n'avez rien de convenable.
Non.
C'est le prix d'une tablette et encore de mauvaise qualité.
De mauvaise qualité, tout à fait.
Il fait quoi comme étude, votre gamin? Hein, ben, il fait des machines architecture d'intérieur et des plans. Mais soyez content qu'il ait acheté un ordinateur à 850 ou à 1000 euros, parce que si vous étiez passé chez Apple pour avoir un grand écran, il fait la...
C'était 2500.
Voilà. Mm-hmm. Et tout est comme ça, je veux dire. Le papa qui va vous dire, mais l'ordinateur, là, pas besoin. Monsieur, c'est l'UNIF, on n'imprime même plus les syllabus, ils sont accessibles en ligne.
Il faut un ordinateur.
C'est inévitable.
Mm-hmm. Ouais.
Donc là, moi, je prendrais peut-être le contre-coup en disant, c'est pas un accord, mais le droit de refuser n'est pas non plus un diktat. Hein. Ça peut être un diktat ou un droit de veto.
Tout à fait.
Parce que vous avez des femmes qui en ont marre d'interroger l'autre, parce que l'autre dit toujours non, non. Donc c'est parfois utile de les avoir quand ils sont là en personne et de faire passer un peu le message.
Mm-hmm. Ok.
Il m'arrive de sortir des choses vraiment très... Je leur dis, les enfants sont jeunes, ils ont 14-15 ans pour les aînés et 7-8 pour les plus jeunes. Et ils se rendent dedans, mais comme c'est pas permis, quoi.
Mm-hmm.
J'ai dit, mais n'oubliez pas, vous êtes encore obligé de vous allez vous rencontrer, vous revoir. Il y aura des épisodes dans la vie de vos enfants, peut-être un mariage, je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous ferez? Vous ne croyez pas que ce serait mieux d'avoir dès aujourd'hui une solution de paix?
Oui, bah, les mariages, les naissances.
Et de ne pas instrumentaliser vos enfants dans vos déboires familiaux, ou de couple ou d'ex-couple.
Parce qu'on a quand même... expliquer le principe que lorsqu'on reçoit la visite d'un huissier, c'est toujours bien de courir chez l'avocat plutôt que de faire la sourde oreille. Ça, c'est un principe de base.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Mais ce que je crois, dans le même ordre d'idée, qui est important pour éviter les déboires, notamment en matière de frais extraordinaires, il n'est pas rare que monsieur ou madame ait un avocat pour la procédure.
Mmh.
Et puis qu'une fois que le jugement arrive... Monsieur ou madame, de son côté, même dans le dos de son propre avocat, va voir l'huissier.
Oui.
Et l'huissier, si on lui dit...
Go,
saisir
il y va.
Pour autant, même s'il n'y a pas une pièce qui est annexée, il vous dit, ça vous coûte 400 euros, et je le fais.
Ouais.
Ou, si c'est une saisie arrêt, c'est plutôt 700, parce qu'il faut encore dénoncer au débiteur. Ça, il faut leur dire qu'il ne faut surtout pas faire, quoi.
Oui.
Parce que c'est...
Ça
sape le travail de l'avocat.
Bien sûr.
Qui va avoir du pour le rattraper parce que monsieur va se sentir, ou madame va se sentir complètement coincé, violenté.
Oui. Tout à fait.
Tout comme il ne faut pas aller faire une saisie tous les trimestres.
Oui.
Ça, je leur explique aussi parce que dans un véritable cas où madame est dans la difficulté, monsieur est dans la difficulté, madame est dans la difficulté parce qu'elle ne reçoit pas les contributions alimentaires de monsieur. Si on fait des saisies tous les trimestres, il faut payer les frais de la saisie.
Mmh.
En bout de course, ils vont être supportés par monsieur, qui légitimement ne savait déjà pas payer dans l'hypothèse où le refus de paiement est plus une incapacité qu'un refus.
Oui, enfin, quand il y a une incapacité, ça je le dis toujours, quand on a été condamné à payer, par exemple... 60% des frais extraordinaires à une époque où on avait un travail à temps plein bien rémunéré, si sa situation se dégrade, on retourne devant le juge pour que le juge révise ça. Il réaménage pour pas qu'on ait une charge trop importante. Ça, c'est, voilà, c'est pour ça que la plupart du temps, les gens qui se retrouvent devant le juge des saisies, ce sont des gens soit qui ont été négligents, qui ne sont pas retournés devant le juge pour demander que le juge réexamine la situation. C'est plutôt des gens qui n'ont pas envie de payer pour enquiquiner l'ex.
Et ça existe. Il y en a beaucoup, mais pas que.
Il n'y a pas que ça.
Il y a des gens qui sont très corrects et qui ont des problèmes, qui ont refait leur vie, qui ont deux, trois enfants après. Mm-hmm. Ils sont financièrement un peu exsangues. Et,
oui.
Et c'est compliqué. Ce que je voulais peut-être dire sur le métier de juge des saisies, c'est que c'est un métier où on est appelé à connaître un peu toutes sortes de droits.
Mm-hmm.
On ne tranche pas le fond à la place du juge qui connaît naturellement le litige,
mm-hmm.
mais on a des problèmes d'exécution dans certaines matières.
Mm-hmm.
Donc, moi, le droit familial, dans le cabinet où j'étais, ça n'existait pas. Jamais.
Mm-hmm.
On n'aurait pas fait plaisir à un administrateur délégué en disant « on va s'occuper de votre divorce », on l'aurait mal fait, donc ouais. On l'envoyait chez un spécialiste.
Mm-hmm.
Donc, quand vous arrivez avec ce genre de background et quand vous filez vos premiers dossiers de frais extraordinaires, vous vous demandez un peu ce qui vous arrive. Quoi.
Ouais, vous avez des sueurs froides en vous disant « je ne comprends rien, qu'est-ce que je vais faire avec ce dossier ?»
Et le problème des saisies, c'est aussi en matière commerciale, évidemment.
Oui.
Où il y a des enjeux, des emplois à la clé.
Oui.
Voilà.
Eh bien.
Je pourrais vous dire encore plein de choses, mais c'est pas important pour le podcast.
C'est pas important pour, pour le public auquel nous nous adressons. Merci beaucoup pour votre temps et ces explications très claires.
Avec plaisir.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.